Dans ce Présence Midi, c'est un plaisir de vous retrouver, même si malheureusement nous avons une mauvaise nouvelle à annoncer, le décès de nos collègues qui travaillent à Radio La Pourdie, qui est bien sûr une entité qui travaille également avec nous sur Radio Présence. Alexandre Aguerre qui nous a quitté donc suite à une opération. Voilà, on voulait vous faire part de ce décès car il fait partie de la grande famille de Radio Présence. Allez, nous allons débuter ce magazine avec tout simplement la prière de l'Angélus à midi sur Présence.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Nous allons retrouver, si l'ordinateur veut bien, tout simplement le rendez-vous donc de la prière avec l'Angélus sur Présence. On retrouve l'Angélus.
Du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Allez, on se retrouve pour ce Présence Midi. Si nous sommes ensemble jusqu'à 13h, avec dans quelques instants, on ira faire un petit tour dans le Gers, puisque nous allons retrouver Monseigneur Lacombe qui sera au micro d'Anne-Rose Jankovic. On prendra donc comme ça des nouvelles du diocèse d'Auch. Et puis on va rester dans le Gers avec Pauline Cazier qui nous fait découvrir une belle association. Elle s'appelle l'association Super Maman. C'est un réseau de bénévoles qui est prêt à soutenir les jeunes mères après l'arrivée de bébé. La mère bénévole dite Maman Cadeau apporte un repas fait maison à une maman qui vient d'avoir un bébé et à la maman à bichonner, il appelle. Cela peut être suivi d'un moment d'échange entre elles. C'est une façon d'apporter du soin et de les sortir de leur solitude. Chaque département couvert est géré par une maman contact qui est référente des mamans cadeaux ainsi que des mamans à bichonner. Voilà, depuis quelques mois, le Gers compte une nouvelle maman contact. Elle s'appelle Émilie Picamille et elle nous explique comment elle fonctionne à l'association. Donc elle sera au micro de Pauline Cazier. Et puis un jour, un livre, un auteur, Philippe Denis, a décidé de nous faire une sélection de livres qui ont retenu son attention. Il nous les présente donc d'ici quelques instants. Avant de partir dans le Gers, retrouver Monseigneur Lacombe, on écoute Nicoletta.
Le passé Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère, on m'appelait. Je te reviens et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. Le chat et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais, désormais.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Bonjour Monseigneur Bertrand Lacombe.
Bonjour Anne-Rose.
Merci beaucoup d'accueillir Radio Présence dans la maison diocésaine de votre diocèse à Auch. Alors nous allons prendre quelques nouvelles, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé depuis la rentrée. D'abord, vous allez nous parler d'une assemblée diocésaine qui a eu lieu pour bien lancer l'année pastorale.
Voilà, on avait vécu ça il y a 2 ans et on a réitéré cette année, le samedi 6 septembre, une longue matinée. Et certains ont prolongé aussi par le repas qui a été bien sympathique. Ça a été l'occasion aussi de fêter avec un peu d'avance la nativité de Marie, qui est la fête diocésaine. Et nous avons eu donc cette assemblée diocésaine avec les responsables ecclésiaux, c'est-à-dire les membres des équipes d'animation pastorale, les responsables de service, bien sûr, les prêtres, les diacres, les laïcs en mission ecclésiale. Et nous avons fait ça à Sainte-Bernadette, à Auch. Et c'était axé sur 2 choses qui sont, d'une part, l'assemblée elle-même, se retrouver en assemblée pour vivre un moment fort, et puis préparer des journées missionnaires. Et c'est une manière de mettre en œuvre les beaux moments que j'ai vécus entre mai 2024 et mai 2025 des visites pastorales. Et donc les recommandations des visites pastorales sont autour d'assemblées paroissiales. Mais si on dit ben c'est bien de faire des assemblées paroissiales, c'est bien d'en faire aussi au niveau diocésain. Et puis, encourager aussi à vivre des journées ou des semaines missionnaires dans les paroisses. Nous avions eu l'année dernière un très beau congrès mission diocésain ici à la maison diocésaine. On avait participé 2 fois au congrès mission à Toulouse. Cette année, il y en a qui vont aller au congrès mission à Paris aussi. Mais on s'est dit, dans les paroisses, ça serait bien qu'on puisse, sur une journée, sur 3 jours, sur une semaine, faire un certain nombre de propositions et rencontrer les gens autrement, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a, de bonnes habitudes, mais on s'est dit, on pourrait faire des choses nouvelles, une messe inédite à un moment, un temps avec parents-enfants, une rencontre où on invite un peu plus largement, faire un café au presbytère tous les jours de la semaine à la même heure.
Donc ça, ces journées missionnaires, c'est un peu à chaque paroisse d'inventer, d'innover, de faire ce qu'elle a envie de faire avec, avec ce qu'elle est, avec ses forces vives. Il n'y a pas, une règle, un exemple, un modèle à suivre à une date précise pour tout le monde. Chacun fait comme il est.
Oui, il n'y a pas d'obligation. Mais chacun est reparti quand même de l'Assemblée diocésaine du 6 septembre avec plein d'idées. On a eu une très bonne intervention de Dominique Fontanet qui nous a encouragés à faire ces journées missionnaires. On a eu des ateliers avec plein d'idées. Et puis, on a terminé la matinée par paroisse, par service diocésain, en faisant un programme de journées missionnaires. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à.
Il n'y a plus qu'à. Alors, sur cette question-là, justement, en début d'année, on a tous plein de projets. C'est vrai aussi dans les paroisses. Peut-être un petit mot pour les forces vives des paroisses, justement, où on voit peut-être ici ou là que, beaucoup de choses reposent un peu toujours sur les mêmes personnes, les mêmes épaules. Comment on fait pour solliciter les gens sans les épuiser et pour donner envie à d'autres de nous rejoindre et de faire partie aussi de l'aventure paroissiale? Parce qu'il y en a du travail à faire.
Oui. C'est important de se renouveler et de pouvoir appeler des personnes nouvelles. Je vais fêter au mois de novembre, le 22 novembre, mes 5 ans à Auch. Donc ça sera, ça me permet de relire ce que nous avons vécu. Alors comme tous les fidèles, il y a des fois, je me dis, oh là là, mais ça c'est pas fait. Mais je vois aussi d'autres côtés, et je vois des personnes nouvelles qui sont arrivées, qui se sont mis en route. Et donc c'est vrai, il n'y a pas de secret particulier. Comme nous y invite le projet synodal diocésain en sortie sur des terres d'espérance, appeler des personnes nouvelles pour des groupes d'églises porteurs de projets.
Sortir, appeler, rassembler, ça c'est un petit peu le fil conducteur alors que vous avez répété au cours de vos visites pastorales. C'est la même chose, le même fil conducteur pour l'année pastorale qui commence, là, qui a commencé.
Oui, parce que là on est sur cette étape du projet, après avoir été en visite sur des terres d'espérance, maintenant on est en sortie. Il y a eu des encouragements qui ont été donnés par le compte-rendu des visites pastorales, qui est en fait un partage d'expérience que l'on peut avoir. Et donc, appeler groupe, projet. Parce que si on n'a pas de projet, si on ne sait pas pourquoi on est là, on tourne en rond. Et soit on a un projet dans le lieu où on est, et c'est très bien, soit on adhère à une dynamique de service ou une dynamique de mouvement. Ces trois aspects-là, ça compte beaucoup. Et c'est vrai que si on veut avoir ce temps de journée missionnaire dans nos paroisses, il faudra, constituer des petites équipes pour le vivre. C'est aussi dans ce sens qu'il y a cette troisième dimension du compte-rendu des visites pastorales qui concerne les ministères institués. Donc pour ceux qui sentent cet appel autour de la parole de Dieu, autour de la liturgie, autour de la mission. Et je dis appel dans le sens où c'est vraiment une dimension vocationnelle qui est là et cette possibilité de devenir ministre institué, c'est-à-dire prendre une part particulière à la vie de l'Église. Donc on a encore un peu de temps pour s'y préparer, mais nous aurons le 10 janvier un temps d'information diocésain, on le redira à ce moment-là, mais pour présenter ces ministères institués et pour tous ceux qui ont cet appel particulier autour de la parole de Dieu, on dit lecteur, autour de l'animation liturgique, on dit acolyte, autour de la transmission et de la mission, on dit catéchiste. Voilà, là aussi, une nouvelle manière d'appeler qui, j'espère, va nous stimuler et va donner de belles perspectives.
En tous les cas, vous, vous comptez en tant qu'évêque sur ces ministères institués pour. Je ne sais pas comment vous l'imaginez. Vous imaginez un ministre institué dans chaque paroisse. Comment vous voyez les choses, vous?
Nous avons des idées et c'est particulièrement le diacre Pascal Laborie qui est délégué diocésain au diaconat, mais aussi au ministère institué, qui va faire des propositions. Donc il ne s'agit pas de mettre des personnes dans des cases, elles seront où elles seront, un peu comme les diacres. Là où il y a des diacres, il y en a, là où il n'y en a pas, on appelle. Mais l'idée, c'est de dire que les personnes qui ont vraiment, par exemple, autour de la parole de Dieu, qui se sentent appelées à animer des groupes bibliques, qui aiment bien faire des commentaires d'évangile, pour qui la parole de Dieu résonne chaque jour de manière particulière, on est autour de ce ministère de lecteurs. Je pense à ceux qui animent des célébrations, notamment des célébrations d'obsèques, mais il n'y a pas que les obsèques, il peut y avoir aussi des temps de prière, il peut y avoir des célébrations de la parole qui sont très belles, et on voit bien que pour certaines personnes, elles font ça parce qu'il faut le faire, mais il y en a d'autres qui font ça parce qu'elles se sentent appelées à avoir ce service-là, et donc c'est là qu'on dit qu'il y a une dimension vocationnelle, c'est-à-dire qu'on sent qu'à l'intérieur de soi-même, c'est pas le fait de faire ça un moment puis de passer à autre chose, mais c'est que vraiment, rassembler des chrétiens, animer la prière communautaire, eh bien, ça compte.
Et ça supposera du coup les formations qui vont avec pour aller jusqu'à l'institution.
Oui, alors on travaille en province sur cette question-là, et donc on a déjà des perspectives pour la formation, mais maintenant, comme vous le soulignez, il faut pouvoir appeler, donc c'est dans cette perspective que l'on se situe, et j'espère que notre réunion de janvier, il y aura un certain nombre de chrétiens qui seront là.
Voilà, donc une belle perspective de personnes qui pourront être appelées en mission dans les paroisses. Alors on a parlé, tout à l'heure vous parliez des EAP, on a évoqué aussi les services, les mouvements, toutes les forces vives d'une paroisse. Bien sûr, parmi les forces vives dans une paroisse, il y a le curé, et ce mois de septembre a été aussi l'occasion de plusieurs changements et d'installations, d'arrivée de nouveaux prêtres, de nouveaux curés. Je crois que c'est important d'en parler dans cette interview.
Bien sûr, c'est ce moment des installations et donc de la remise de lettres de nomination au curé. Donc nous en avons fait sur trois dimanches. Il y a d'abord un prêtre qui avait été nommé administrateur pendant un an, Vic Fezensac, l'abbé de Rosières, et donc qui est nommé curé pour 3 ans. Et il fait bien le lien entre nos diocèses, puisqu'il est aussi confesseur 2 jours par semaine au sanctuaire de Lourdes, et donc il va assurer cette mission curiale dans la continuité de ce qu'il faisait jusque-là, et nous sommes heureux qu'il soit avec nous. Donc ça, c'était le 14 septembre à Vic-Fezensac, et puis le 21 et le 28 septembre, il y a eu les installations en Lomagne, où nous avons eu la joie d'accueillir 3 prêtres de la communauté Saint-Martin, qui nous ont été présentés à l'Assemblée synodale. Ils étaient là, eux aussi, donc ça a été le moment de faire connaissance, et puis à travers différentes rentrées. Donc le curé Don Guillaume Sebeau, qui arrive de Cologne, non pas dans le Gers, mais en Allemagne, puisqu'il était curé de la paroisse de Cologne et de la paroisse de Düsseldorf en Allemagne. Don François Dousseau, qui arrive aussi pour s'occuper plus particulièrement des jeunes. Et puis Don Maël Prost, qui arrive pour faire une équipe sur l'ensemble de la Lomagne, en résidence à Florence, mais actif aussi sur Lectoure, et la première installation a eu lieu au cours de la messe dominicale à Lectoure, et puis le 21 septembre au soir on s'est retrouvé à Saint-Clar pour un temps de vêpres, l'installation au cours de vêpres, et on a recommencé le week-end d'après, le 28 septembre, avec l'installation à Florence et les vêpres à Mauvezin. Ça a été de bons moments pour faire connaissance, à travers aussi des liturgies que les gens ne connaissent pas forcément, parce que c'est vrai que il y a une vingtaine d'années, ça se faisait moins, tandis que maintenant, on a la présentation des prêtres, on a eu une présentation aussi de la communauté, puisque le premier dimanche, Don Paul Préau, qui est le modérateur général de la communauté Saint-Martin, était avec nous. Donc, on a pris le temps de faire connaissance. Le temps de lire la lettre de nomination, le temps aussi pour le nouveau curé de proclamer sa foi devant toute la communauté. Voilà.
Donc vous avez un presbytérium en bonne santé en ce début d'année pastorale avec plein de dynamisme en perspective.
Oui, alors le presbytérium garde toujours ses différentes composantes de prêtres incardinés dans le Gers, c'est-à-dire originaires du Gers ou qui ont souhaité être incardinés dans le Gers, de prêtres membres de communautés, de prêtres fidei donum, et puis aussi de prêtres de plus de 75 ans, mais que nous sollicitons toujours beaucoup pour un certain nombre de services, et leur fidélité est vraiment un bel encouragement pour chacun.
Merci beaucoup, Monseigneur Bertrand Lacombe. On arrive au terme de cet entretien. Vous avez encore beaucoup de nouvelles de votre diocèse à nous donner. Alors, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien. À la semaine prochaine.
Oui, au revoir, Anne-Rose. Et j'ajoute que je serai heureux de participer avec l'équipe synodale diocésaine au jubilé du synode au mois d'octobre. Et c'est une manière aussi d'encourager tout ce que nous vivons au niveau de l'Assemblée diocésaine, au niveau des paroisses.
Merci, Monseigneur Lacombe.
Voilà, Monseigneur Lacombe était au micro d'Anne-Rose Jankovic. Nous allons poursuivre en musique et puis après on retournera dans le Gers pour découvrir une belle association. L'association s'appelle Super Maman. On découvre cela grâce à Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers, après avoir écouté Morane.
Présence à Bourdeuil, 94.
Dans cette décharge de rêve. Rohrbach. De Bach. Je donnerai les Charles Mozart en vrac. La vie en rose, le rock and roll. Tous ces bémols et tous ces couacs.
Présence à Cajarc, 97.7.
L'association Super Maman est un réseau de bénévoles prêts à soutenir les jeunes mères après l'arrivée de bébé. Depuis quelques mois, le Gers compte une nouvelle maman contact. Elle s'appelle Émilie Picamille et elle nous explique comment fonctionne cette association. Elle est au micro de Pauline Cazier.
Émilie Picamille, bonjour. Je vous appelle aujourd'hui pour que vous me parliez de l'association Super Maman France, qui a une, grâce à vous, une annexe, si on peut dire, dans le Gers. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que l'association Super Maman ?
Oui, bonjour. L'association Super Maman, c'est une association qui a vu le jour en Suisse en 2015 et dont le concept a été exporté en France en 2020 en tant qu'association loi 1901 à but non lucratif. Elle a été importée en France par trois accompagnantes périnatales qui ont pu observer l'isolement que ressentaient certaines mamans en postpartum et qui ont voulu lutter contre ça. Et donc, elles ont créé un réseau de bénévoles prêtes à soutenir les jeunes mères après l'arrivée des nouveau-nés, avec un repas fait maison et un temps de discussion. Et donc, ce sont les mamans cadeaux. Alors, le repas fait maison, c'est aussi le prétexte, en fait, pour pouvoir discuter, pour pouvoir écouter surtout la jeune maman et avec bienveillance, parce que voilà, le but c'est que nous ne sommes pas des professionnels, c'est comme une sœur, une cousine, une voisine qui viendrait amener un peu de chaleur culinaire et humaine à une maman dans ces moments difficiles que peuvent être le postpartum.
Parce que vous-même, j'imagine que vous êtes une jeune maman.
Exactement, moi j'ai deux enfants de 3 et 6 ans et malgré le fait que j'avais de la famille autour, j'ai trouvé ce temps du postpartum très solitaire. J'avais beaucoup de questions, j'avais beaucoup de doutes, j'avais toujours l'impression de mal faire et j'osais en parler à personne en fait. Et c'est vrai que parfois une oreille extérieure, ça fait du bien aussi, c'est plus facile de se livrer.
Parce que vous trouvez que vous n'avez pas été assez suivie par la maternité, enfin par l'hôpital ?
Alors en fait, moi, mes enfants étaient suivis à la PMI. Et pour être totalement transparente, moi, la PMI avait vu que j'étais pas bien. Sauf que du coup, elle m'avait donné un autre rendez-vous pour revenir pour moi. Mais en fait, elle voit tellement de monde que quand je suis revenue, elle avait oublié que c'était pour moi. Et donc moi, j'ai pas osé lui rappeler. Et en fait, je suis restée avec mes problèmes, quoi. Voilà, et mes questionnements. Et j'ai mis beaucoup trop longtemps à me décider à aller voir une psy et à régler, voilà. Parce qu'en fait, la maternité, ça fait ressortir tellement de choses que, voilà, c'est pas toujours simple à gérer tout seul. Et puis, il y a le bébé, tout le monde s'occupe du bébé, on veut être sûr qu'il va bien et tout. Et on oublie que pour la maman, c'est aussi un gros chamboulement.
Alors comment ça se passe quand on décide d'être maman contact ? Comment ça se passe ? Comment on arrive à trouver d'autres mamans qui sont un petit peu en difficulté après l'accouchement ?
Alors la maman contact, c'est mon rôle. Moi, je fais le lien entre avec l'association nationale et ensuite je mets en relation les mamans cadeaux, donc celles qui vont amener le repas, et les mamans à bichonner qui sont les jeunes mamans. Et alors je tiens à préciser parce qu'on a eu le cas que ces jeunes mamans, mais pas que, parce qu'on a eu des demandes de mamans dont les enfants avaient 9 mois, 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans. Et on a aussi accepté parce qu'en fait, la solitude, elle s'arrête pas toujours à 6 mois.
Donc, vous parlez de repas, vous amenez le repas ou alors vous faites la cuisine ensemble?
Non, le but, c'est d'amener un repas chaud. Voilà. Ça peut être un gratin, ça peut être une pizza, une quiche. Voilà, ça c'est des. On demande toujours aux mamans à bichonner quand elles s'inscrivent sur le site de dire leurs préférences alimentaires ou si elles ont des allergies ou des choses comme ça. Et on fait les plats en fonction. Et sur l'association, on a tout un dossier d'idées de recettes pour voilà, pour donner des idées aux mamans cadeaux qui n'en auraient pas forcément.
Donc, comme vous dites, c'est un lien entre vous-même, la maman contact, et la personne chez qui vous allez, un lien. Et là, vous avez déjà l'expérience, vous avez déjà rencontré des mamans comme ça?
Oui, on a déjà rencontré, enfin, alors, du coup, on a déjà mis en contact des mamans cadeaux et des mamans à bichonner. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. On a eu, même au niveau national, on a plein de retours. On a souvent des réunions qui permettent d'affiner le process. Et ce qui est important, c'est que on n'est pas des professionnels, quoi. Voilà, et on insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire que on est très intransigeante sur le proxénétisme. On n'offre pas une cible de maman fragile à des professionnels qui voudraient se faire une clientèle. C'est vraiment, nous, on est vraiment juste là pour offrir une écoute bienveillante et si jamais dire, mais tu sais, là, il y a la PMI, là, il y a une psy, là, il y a un LAEP ou un réseau petite enfance qui peut t'aider. Voilà. Nous, on est vraiment là pour sortir la maman de l'isolement.
Là, oui, vous-même, vous pouvez parler de votre propre expérience après la naissance de vos enfants, où vous avez eu, vous aussi, peut-être des moments difficiles. Vous pouvez partager ça et...
Ah oui, moi j'ai eu des moments très difficiles. J'avais l'impression que... Alors, mon premier, il dormait pas bien. Il avait beaucoup de reflux. Voilà, j'ai voulu allaiter, mais en fait, l'allaitement se passait pas bien. Et du coup, avec le sommeil, avec le manque de sommeil justement, ça a été vraiment très difficile. Et c'est vrai que je voulais pas l'avouer parce que j'avais peur qu'on me juge et qu'on m'enlève mon fils. Parce que quand on n'est pas bien, c'est un peu des fois l'esprit va dans ces extrêmes-là. Et alors qu'en fait, je pense que si j'avais pu juste discuter, j'aurais vu que ben, les galères que je traversais, c'était les mêmes que toutes les mamans. Et rien que ça, déjà, je pense que ça m'aurait fait du bien.
Alors, j'imagine qu'il y a ces rencontres débouchent sur un lien d'amitié. Et est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui se, après, avec la même personne au cours des semaines?
Alors, la théorie de l'association, c'est un repas chaud tous les 15 jours pendant 2 ou 3 mois. Nous, dans le Gers, là, pour l'instant, moi, j'ai repris il y a 6 mois. On commence à se faire connaître. Donc, pour l'instant, on fait en fonction des disponibilités de chacun et de chacune. Parce que le Gers est un département quand même assez grand. Et on a une maman en contact dans chaque coin. Donc, le but, c'est pas de les assommer de suite, quoi. Donc, on s'organise en fonction. Voilà, là, j'ai quelques mamans qu'on est allé voir. Je leur ai réécrit. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu veux qu'on repasse? Oui, non, c'est pas la peine. Et puis, on s'organise comme ça.
Alors, vous avez des partenaires que sont la PMI et puis des psychologues. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors, c'est surtout la PMI pour l'instant. La PMI notamment de Florence Lectour, que j'avais contactée et qui avait été d'accord pour mettre les flyers. Ensuite, moi, j'en ai parlé avec ma sage-femme et je sais que d'autres mamans cadeaux en ont parlé avec leur sage-femme aussi. Et aussi les pharmacies. Voilà, on commence à en parler aussi aux pharmacies. On essaye en fait de toucher les mamans, quoi. Alors, à la fois les mamans cadeaux pour avoir des bénévoles, même si c'est une fois de temps en temps, voilà, c'est pas, on s'adapte vraiment, on n'impose rien à personne, et surtout pour rassurer les mamans à bichonner qui peut-être seraient tentées mais n'oseraient pas recevoir quelqu'un qu'elles ne connaissent pas chez elles.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la rencontre qui aura lieu le samedi 11 octobre à 16h au café Esperluette à Auch?
Alors là, c'est en fait une rencontre entre mamans cadeaux pour se retrouver et pour se voir, parler, répondre aux questions, voir comment on peut améliorer la communication et le service dans le département. Et évidemment, tout le monde est bienvenu, toutes les femmes ou hommes, hein, parce qu'on a eu aussi des papas cadeaux qui seraient intéressés par rejoindre l'association ou les mamans qui seraient intéressées pour s'inscrire et recevoir un bichonnage.
Alors justement, la dernière question que je vais vous poser, c'est comment, si, pour les personnes qui souhaitent vous rejoindre, comment contacter votre association ?
Alors, c'est très simple. Vous pouvez aller sur le site Super Maman France et il y a tous les détails dessus. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire tout simplement et sinon sur le Facebook, voilà, je cherchais sur Facebook, il y a Super Maman Occitanie et donc là c'est du coup plus notre région et donc si vous mettez un message sur le Facebook, moi ou une autre des mamans en contact, on vous répondra.
D'accord, donc je vous rappelle, c'est samedi pour cette rencontre, samedi 11 octobre à 16h, le café Esperluette, c'est dans la rue de Sol à Auch. Voilà, ben je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, à l'instant, vous avez entendu Émilie Picamille par téléphone. Elle était interviewée par Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers, et représentait l'association Super Maman.
Présence dans la cité mariale, 96.
On apprend plein de choses grâce à Radio Présence et on va continuer à apprendre puisque on retrouve le point sur l'actualité régionale en compagnie d'Éric Leclerc que je salue. Bonjour Éric.
Bonjour, exercice de sécurité civile ce jeudi 9 octobre à la Ville-Dieu du Temple dans le Tarn-et-Garonne. De 17h à 22h, la préfecture de Tarn-et-Garonne organise sur cette commune un exercice simulant une explosion dans un établissement recevant du public, engendrant de nombreuses victimes. Cet exercice a pour objectif de renforcer l'efficacité des dispositifs opérationnels de secours dans le cadre du plan départemental ORSEC, nombreuses victimes. Des moyens techniques et humains seront déployés sur le terrain. L'organisation de cet exercice entraînera des restrictions de circulation dans la zone le jeudi 9 octobre de 15h à minuit. Il n'implique pas la participation active des habitants. Aucune alerte à la population ne sera jouée en réel. Dans un contexte de pénurie médicale des territoires, la ville d'Aubin en Aveyron n'échappe pas à cette situation avec une difficulté de recrutement de médecins généralistes pour compenser les départs à la retraite des praticiens. Les médecins, déjà surchargés de patients, ne peuvent en accepter davantage. La municipalité a décidé il y a quelques mois de mettre en œuvre un plan d'action pour essayer de pallier ce manque. Elle a publié une annonce de recrutement dans le journal du Syndicat national des jeunes médecins généralistes. Salon de l'emploi public et de la mobilité aujourd'hui de 11h30 à 17h30 au stade Paul Lignon à Rodez. Organisé dans le cadre de la semaine de la mobilité lancée par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, ce salon s'adresse à un large public, fonctionnaires, agents, contractuels, demandeurs d'emploi et étudiants. Une vingtaine de structures sont présentes. Pensez à vous munir de votre CV et à préparer les questions que vous souhaitez poser. Cinquième édition des journées France Service, découvrez ou redécouvrez vos services publics de proximité dans vos espaces France Service en Haute-Garonne. Jusqu'au 18 octobre, les espaces France Service ouvrent leurs portes. Le réseau départemental compte 26 France Service qui ont permis 102 482 accompagnements depuis le début de l'année 2025. Certains d'entre eux tiendront même des permanences exceptionnelles et pourront ainsi répondre aux questions. Une extension de Vélo Toulouse. 6 communes autour de Toulouse vont bénéficier d'une extension de service. Il s'agit d'Aucamville, Balma, Blagnac, Labège, Ramonville et Tournefeuille. Dans Toulouse, de nouvelles stations renforceront le maillage déjà existant. Cela représente 45 nouvelles stations et 350 vélos supplémentaires. Au total, 445 stations et 3650 vélos seront en circulation sur l'agglomération toulousaine. La flotte de vélos est composée de 50% de vélos à assistance électrique de couleur orange et de 50% de vélos mécaniques de couleur rose. La 9e édition de la Tarbelle se déroulera le vendredi 10 octobre. Cet événement organisé dans le cadre d'Octobre Rose avait mobilisé près de 6700 participantes en 2024. Depuis sa création, la Tarbelle cumule un total de 190 000 euros de dons aux associations luttant contre le cancer du sein. Pour vous inscrire, vous allez sur pyrenechrono.fr.
Effectivement, merci beaucoup Éric Leclerc. On rappelle effectivement ce beau proposition qui vous est fait avec la Tarbelle qui part depuis le stade de rugby Maurice Trélu. On en parlait d'ailleurs avec la présidente du comité de la Ligue contre le cancer la semaine dernière dans ce même journal. Nous allons retrouver le duo célèbre, un jour, un livre, un auteur, où nous sommes avec Philippe Donny qui nous a fait une sélection de livres après avoir écouté le chanteur Grégoire.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Tu sais que j'ai du mal encore à parler de toi. Il paraît que c'est normal, y a pas de règles. Ces jeux-là, tu sais, j'ai la voix qui se serre quand je te croise dans les photos. Tu sais, j'ai le cœur qui se perd. Je crois qu'il te pense un peu trop. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. C'est dur de briser le silence, même dans les cris, même dans la fête. C'est dur de combattre l'absence, car cette conne n'en fait qu'à sa tête. Et personne ne peut comprendre. On a chacun sa propre histoire. On m'a dit qu'il fallait attendre que la peine devienne dérisoire. C'est comme ça, c'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. Dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. Je voulais te dire que j'étais fier d'avoir été au moins un jour un peu ton ami et ton frère. Même si la vie a ses détours, c'est comme ça, c'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'attends.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous.
Eh bien non.
La Mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des Assurances. Plus d'informations sur leur site.
Un jour, un livre, un auteur... Philippe Nonny, Diego Arabal, Philippe Subercaz.
C'est avec des livres que vous êtes arrivé aujourd'hui à la radio, mon cher Philippe Nonni, bonjour.
Bonjour Philippe Subercaz, bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe Nonni, bonjour Philippe Subercaz.
Ah, merci.
Grand d'être... plaisir de vous retrouver.
Ah, mais moi aussi.
Plaisir partagé.
Et vous êtes arrivé avec des livres, mais aussi avec Diego, hein, puisque.
Tout
Diego,
à fait.
C'est important.
Ben, tous les trois, on est inséparables. Hein. Je veux dire, si on n'est pas là, il n'y a pas d'émission. Il faut le dire tel quel.
Et mon cher Philippe Nonni, comme la semaine dernière, vous avez sélectionné trois livres qui ont marqué un peu votre été, hein, 2025,
oui.
Et vous souhaitiez bien sûr les présenter à nos auditeurs.
Tout à fait. Donc des livres et encore des livres comme la semaine dernière, Bis Repetita. Alors, premier livre, il faut toujours, toujours écouter les anciens. Ils ont des choses à nous raconter et c'est tout sauf idiot. Né en 1921, Edgar Morin est aujourd'hui âgé de 104 ans, excusez du peu. Et il continue à produire, continue à écrire, il continue à réfléchir et à nous faire réfléchir, à nous demander de nous interroger. Y a-t-il des leçons de l'histoire aux éditions de Noël ? C'est une véritable réflexion que nous propose cet homme de 104 ans. 104 ans, je ne sais pas si vous voyez. Contemporain de Diego Arabal,
Philippe Subercaz. Hein, il est un petit peu plus jeune que moi.
Plus jeune que Diego Arabal, vous voyez. Donc.
C'est vrai. Il doit avoir quoi, une vingtaine de moins d'années.
Donc, y a-t-il des leçons de l'histoire d'Edgar Morin, donc aux éditions de Noël ? C'est une réflexion, en fait, sur ces 104 années, sur le pourquoi de cet homme, effectivement, a décidé de s'engager dans cette période de réflexion, sachant qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, il a 19 ans, quand elle commence. Donc voilà, on est sur un homme qui vit des événements tragiques, qui traverse des histoires tragiques, et puis qui décide à un moment donné, effectivement, de nous écrire ce livre. Quatrième de couve. L'histoire n'a cessé d'être pour Edgar Morin un sujet de réflexion, y compris l'histoire à laquelle il a participé. Témoin des atrocités de la guerre, des bouleversements économiques et écologiques, penseur des civilisations, Edgar Morin en a tiré des leçons fondamentales qui éclairent le passé et nous aident à construire l'avenir. Depuis son poste de vigie, il nous apprend que l'improbable peut advenir, que les destructeurs peuvent être aussi de grands civilisateurs, que les mythes influe puissamment sur le réel, qu'un seul individu peut parfois changer le cours de l'histoire. Dans un esprit de synthèse particulièrement vif, Edgar Morin nous entraîne dans le grand voyage de l'humanité, de l'Antiquité à nos jours. Je vais vous lire juste le début, la troisième leçon que j'ai trouvée brillante. L'improbable peut advenir. À l'université de Toulouse en 1941, je suivis les cours d'un professeur en histoire ancienne très intéressant, André Aymard. Sous son enseignement, j'eus à méditer sur la résistance d'Athènes aux invasions perses, puis sur la prise d'Athènes par Philippe de Macédoine. Ce qui me frappa d'abord, c'est l'incroyable et improbable triomphe d'Athènes, petite cité grecque durant l'invasion par le gigantesque empire perse lors d'une première victoire à Marathon, qui a donné la fameuse course, lors d'une première victoire à Marathon en 490 avant notre ère. Puis Athènes triompha lors encore de la seconde invasion médique, 10 ans plus tard, dans une ultime victoire navale à Salamine où fut détruite la flotte perse. Selon toute probabilité, Athènes aurait dû être engloutie, comme le furent les cités grecques d'Asie mineure, par le tout-puissant et gigantesque empire perse. Si Athènes avait été vaincue, n'aurait pas eu lieu 50 ans plus tard l'instauration de la démocratie et la floraison de la philosophie socratique platonicienne, aristotélicienne, c'est-à-dire les sources de la culture européenne. De façon irrésistible, il m'a paru ainsi que plutôt que le probable, l'improbable pouvait advenir. En 339 avant notre ère, Philippe de Macédoine vainquit les cités grecques coalisées et Athènes subit le joug macédonien. Or, c'est à partir de ce désastre pour la démocratie grecque que son fils Alexandre le Grand put, au cours de ses conquêtes, faire rayonner la culture hellénistique sur une grande partie de l'Asie et de l'Égypte. la philosophie grecque se répandit et se prolongea notamment en Égypte, à Alexandrie, en Sicile et en Campanie. D'où le double aspect de la chute d'Athènes. Négatif du point de vue démocratique, mais positif par la diffusion de la culture grecque. Ce fut là ma première grande découverte des ambivalences qui caractérisent souvent les grands événements historiques. Lisez ce livre, y a-t-il des leçons de l'histoire ? C'est une véritable réflexion de cet homme, de ce grand penseur qui a 104 ans, qui a parcouru le siècle, qui a produit, qui a étudié l'histoire, la géographie, la sociologie, la philosophie, les sciences politiques, qui est aujourd'hui directeur de recherche émérite au CNRS à 104 ans, jugé plus tôt. Ça fait rêver. Hein. Donc, vraiment, un livre à lire, toujours pareil, hein, comme la semaine passée, un livre effectivement réflexif. Second livre que je voulais vous présenter, c'est un livre un peu inclassable, mais j'ai toujours pensé qu'il faut impérativement lire ceux qui écrivent les mots avec brio, comme d'autres jouent du violon avec talent. C'est le cas de ce livre, testamentaire. On ne peut pas le dire mieux, puisqu'au moment où son auteur l'écrit, il est atteint d'un cancer et il sait qu'il va mourir. Ça s'appelle Le Murmure, de Christian Bobin, chez Folio, en livre de poche. Voilà juste la quatrième de couvre en une phrase. Vous allez voir comme cette phrase est belle. Moi, ça m'a convaincu d'acheter le livre. Les poètes meurent au combat même quand ils meurent dans un lit. Ils livrent bataille toute leur vie. Voilà, c'est une très très belle réflexion, moi, qui m'a donné envie de lire ce livre. Et donc, ce sont des réflexions avec un bon sens. Je vais vous lire juste, vous allez voir, les premiers mots qui sont superbes, qui sont à la fois de la poésie, à la fois un recueil de nouvelles. C'est un livre où, en fait, à la fin, il donne effectivement, l'auteur donne tout ce qu'il a avant, effectivement, mais de mourir. La montagne s'incline une seconde. Aucune de ces pierres ne sourit. Si tu cherches une récompense pour ce que tu fais, laver la vaisselle ou jouer Chopin, alors plutôt ne fais rien. Tu as par avance échoué dans l'absolu chef-d'œuvre de la vaisselle ou du poumon des anges. Chopin est une inhalation pour les anges asthmatiques, ces hypersensibles saupoudrés sur terre dès leur naissance jusqu'à leur mort. Car les anges naissent et meurent comme Bouddha, comme les tortues et comme nous. Mais je m'égare. Si tu cherches des félicitations, reste au lit. Au moins pourras-tu espérer faire d'un sommeil un chef-d'œuvre inconnu. Voilà, ça c'est cette phrase beau. Que je trouve très beau. C'est bouleversant. C'est tout le texte est magnifique. Et quand on lit, vous voyez, dans un petit relax, comme je l'ai fait cet été, ben franchement, ce livre, c'est comme si j'avais mangé une pâtisserie, effectivement, qui était excellente. Donc, je souhaitais le présenter. Alors, je reparle du prix à nouveau. Hein. On est sur des livres, effectivement, qui sont pas chers. Hein. Le précédent, bon, il est à 14 euros, celui de Edgar Morin. Celui-ci, donc, est à 6,90 €. Voilà. Tout le temps des livres, effectivement, ce qu'on veut dire aussi aux éditeurs, aux auditrices, c'est qu'il y a possibilité d'arriver à trouver des livres et de lire, de continuer à lire pour effectivement une somme qui n'est pas démente.
Alors juste un petit mot, Christian Bobin est inhumé à Marciac.
Dans le Gers. Tout à fait. Il est inhumé à Marciac et justement il fait référence dans ce livre à Marciac avec sa compagne, voilà, où il avait donc une maison.
Ouais.
Voilà. Et il faut vraiment le lire parce que vous faites bien de le préciser, Diego Arrabal. Bon, on est reçu dans le Gers, hein, on le sait, au niveau de présence. Donc, on le dit. Alors, pas qu'au Gersois, hein, mais toutes celles et ceux, effectivement, qui nous écoutent à lire ce livre de Christian Bobin, Le Murmure. Voilà, c'est vraiment des constats qu'il fait du monde, mais avec une poésie qui est... C'est un livre de poésie, mais qui n'est pas un livre de poésie, mais qui fait quand même de la poésie. Magnifique, superbe. Moi, vraiment, je vous le recommande. On va arriver dans la période où il va pleuvoir, et ben
c'est le moment de lire.
Un bon fauteuil,
un feu de bois.
Et on peut voyager avec un livre.
Et voilà. Exactement.
C'est pas beau la vie quand même.
Mais des fois, il faut se la rendre belle.
Ouais, oui. Et présence est là pour ça, vous voyez, pour accompagner les gens dans ces lectures, dans un jour, un livre, un auteur.
Et un jour, un livre, un auteur va fermer ses portes.
Exactement.
Pour cette semaine et les rouvrira, bien sûr,
la semaine prochaine.
Tout à fait.
Merci, messieurs.
Merci à vous. À la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Nonni, Philippe Subercase.
Je vois le monde un peu comme on voit l'incroyable. L'incroyable, c'est ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Des fleurs dans des crayons, Debussy sur le sable, à Saint-Aubin-sur-Mer, que je ne connais pas. Les filles dans du fer, au fond de l'habitude, et des mineurs creusant dans leur ventre tout chaud, des soutiens-gorge aux chats, des patrons dans le sud, à Marnay pour les ouvriers de chez Renault. Moi je vis donc ailleurs, dans la dimension 4, avec la bande dessinée GMC2. Je suis demain, je suis le chêne et je suis l'âtre. Viens chez moi mon amour, viens chez moi, il y a du feu. Je vole pour la peau sur l'air des misères. Je suis un vieux Boeing de l'an 89. Je pars la fleur aux dents pour la dernière guerre, ma machine a écrire un couplet tout neuf. Je vois la stéréo dans l'œil d'une petite, des pianos sur des ventres de filles à Paris, un chimpanzé glacé qui chante ma musique avec moi doucement, et toi tu n'as rien dit. Tu ne dis jamais rien, tu ne dis jamais rien, tu pleures quelquefois comme pleurent les bêtes, sans savoir le pourquoi, et qui ne disent rien comme toi, l'œil ailleurs, à me faire la fête. Dans ton ventre désert, je vois des multitudes. Je suis demain, c'est toi mon demain de ma vie. Je vois des fiancés perdus qui se dénudent au velours de ta voix qui passe sur la nuit. Je vois des odeurs tièdes sur des pavés de songe à Paris, quand je suis allongé dans son lit, à voir passer sur moi des filles et des éponges qui sanglotent du sucre, de l'âme de folie. Moi je vis donc ailleurs, dans la dimension X, avec la bande dessinée chez un ami. Je suis jamais, je suis toujours, et je suis l'X de la formule de l'amour et de l'ennui. Je vois des tramways bleus sur des rails d'enfants tristes, des paravents chinois devant le vent du nord, des objets sans objet, des fenêtres d'artistes d'où sortent le soleil, le génie et la mort. Attends, je vois tout près une étoile orpheline qui vient dans ta maison pour te parler de moi. Je la connais depuis longtemps, c'est ma voisine, mais sa lumière est illusoire comme moi. Et tu ne me dis rien, tu ne dis jamais rien, mais tu luis dans mon cœur comme lui cette étoile. Avec ses feux perdus dans des lointains chemins, tu ne dis jamais rien comme font les étoiles. Tu ne dis jamais rien, tu ne dis jamais rien, tu ne dis jamais rien, tu ne dis jamais rien.
Présence dans le Lauragais, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Audience générale du pape ce mercredi, Léon XIV a appelé les fidèles à se laisser réchauffer par le cœur de Jésus, proche dans nos échecs et labeurs du quotidien.